Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec accueille favorablement l'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui va permettre aux infirmières praticiennes spécialisées de prendre en charge des patients et patientes sans avoir le médecin qui finalement supervise tout ça. On en parle avec Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Bonjour, M. Mathieu.
Oui, bonjour.
Vous accueillez favorablement cette nouvelle qu'on nous a annoncée aujourd'hui, que nous a annoncé le ministre de la Santé. Pouvez-vous nous dire si vous avez été consulté préalablement, si vous avez contribué à la mise en place de cette nouvelle initiative?
On n'a pas été consulté préalablement, mais nous, on avait fait des représentations il y a déjà un bon moment, là, dans le cadre de mémoire qu'on avait déposé en commission parlementaire, à l'effet que ça puisse être le cas. Que les IPS, parce que prendre en charge, ça veut dire que les IPS peuvent inscrire des patients à leur nom à la Régie d'assurance maladie du Québec, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui.
Par contre, elles vont pas avoir la rémunération de la même manière que les médecins omnipraticiens. Elles sont des employées de l'État. C'est finalement, elles vont être payées au salaire. C'est pas le nombre de patients qui va déterminer leur rémunération comme les médecins. Est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir un mode de rémunération différent que celui des médecins omnipraticiens pour sensiblement le même boulot?
Je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais c'est deux réalités différentes. T'sais, la rémunération médicale, c'était traditionnellement une rémunération à l'acte. Il y a des ajustements, puis il y a des discussions avec le ministre et puis les fédérations médicales là-dessus. Alors que les IPS, c'est des salariés de l'État, du secteur public, font partie d'une convention collective. Alors, c'est deux réalités différentes.
Qu'est-ce que les IPS peuvent faire en ayant des patients sous leur égide, là? Par rapport à un médecin, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire? Est-ce que la différence entre les deux dans la prise en charge?
Bien, la prise en charge, tu n'as pas besoin que le patient soit identifié à un médecin. Alors, il peut être identifié à l'IPS, là, comme je l'ai mentionné au début. Et dès le départ, l'IPS n'a pas besoin de référer un médecin si ça fait partie de son domaine de spécialité, dans ce cas-ci, des spécialités en première ligne, c'est-à-dire qu'elle peut diagnostiquer des maladies, elle peut prescrire des traitements, des examens sanguins, radiographiques, etc. Et puis, elle peut suivre le patient tout le long. Et si ça demeure à l'intérieur de son champ de compétences, elle n'a pas besoin de référer à un médecin. Mais si ça dépasse son domaine de compétences ou assez validé des choses, comme ça se fait beaucoup actuellement sur le terrain, là, elle est appelée à échanger avec son collègue médecin ou d'autres membres de l'équipe interdisciplinaire. Ça peut être d'autres infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, inhalothérapeutes, je ne les nommerai pas tous, là, mais tous les membres de l'équipe interdisciplinaire. Ça fait en sorte que cette nouvelle-là d'aujourd'hui, qui favorise l'accès aux soins, s'inscrit dans où on change de paradigme, où on dit c'est plus nécessairement d'avoir accès à un médecin de famille, mais une équipe de famille ou une équipe de proximité desquelles font partie les infirmières praticiennes spécialisées.
Une infirmière praticienne spécialisée qui va œuvrer, qui va prendre en charge des patients, bien évidemment, ça vient avec des responsabilités encore plus lourdes parce qu'il n'y a pas un médecin qui vient finalement superviser de tout et prendre une part de responsabilité. Comment ça fonctionne pour les assurances professionnelles des infirmières professionnelles spécialisées une fois qu'elles sont un peu livrées à elles-mêmes, entre guillemets, où il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit là pour superviser leur travail? Est-ce qu'il y a une plus grande responsabilité? Est-ce qu'il y a de plus grandes primes de responsabilité professionnelle que vont devoir assumer ces infirmières?
Bien, pour le moment, les primes d'assurance que les IPS paient, ça fait partie, lorsqu'elles s'inscrivent au tableau de l'ordre pour renouveler leur permis de pratique, ils paient la prime d'assurance responsabilité que toutes les infirmières ont. Mais je vais faire du pouce sur ce que vous avez dit. Oui, il y a de plus grandes responsabilités. Et nous, comme ordre, là, dont notre mission, c'est de protéger le public, il va falloir s'assurer que ces IPS-là soient à la hauteur des nouvelles responsabilités qui leur sont confiées. Comme récemment aussi, les infirmières praticiennes, là, peuvent maintenant administrer l'aide médicale à mourir, la sédation palliative continue. C'est une bonne chose pour la population, mais nous, comme ordre, ça veut dire qu'il faut s'assurer que nos membres maintiennent et développent leurs compétences, par exemple, au niveau de la formation continue. Alors, nous, on va être vigilants par rapport à ça. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la population, mais ça ramène des responsabilités supplémentaires sur les IPS, mais aussi nous comme ordre là, de mettre en place nos mécanismes de protection du public là, en accompagnement des IPS.
Une infirmière praticienne spécialisée qui va agir en première ligne, finalement, qui est spécialisée dans les soins de première ligne, à partir de quel moment on va dire qu'elle outrepasse son expertise? C'est difficile à placer cette ligne-là de l'expertise. Parce que des médecins spécialistes, ben, un pédiatre, c'est pas un psychiatre, c'est pas un chirurgien, tu sais, on est capable de faire cette différence-là. Mais chez les infirmières, comment le faire et comment vous, comme ordre professionnel, allez-vous suivre le développement et le maintien des connaissances de chacune des, entre guillemets, spécialités?
Oui. Ben, pour répondre à votre première question, là, c'est où ça sert? Qui détermine quand ça repasse la compétence de l'IPS, ben c'est d'abord l'IPS elle-même hein, qui dit, ben, moi, en fonction de la formation que j'ai, de la loi, des règlements, des guides de pratique qui encadrent ma pratique, ben, si je rencontre une personne où là, ma compétence est dépassée, ben, au niveau de son code de déontologie, elle est tenue de référer à quelqu'un d'autre, soit un médecin omnipraticien ou encore un médecin spécialiste ou un autre membre d'équipe soignante là, pour lesquels elle n'a pas les compétences.
Mais vous êtes dans l'obligation de suivre et de vous assurer que les soins qui sont donnés respectent le cadre de compétences et d'expertise de chacune des infirmières. Comment vos bureaux de syndic et d'inspection pourront faire ce travail-là si c'est finalement une autodéclaration puis on se fie sur l'autorégulation et le respect du code de déontologie?
Oui. Bien, c'est une autorégulation, mais aussi ils sont affiliés, là, la plupart des IPS, là, en tout cas dans le réseau public, à des directions de soins infirmiers qui ont la responsabilité d'assurer la qualité des soins. Mais de notre côté, vous l'avez dit, là, et au niveau de l'inspection professionnelle, nous, on a pris l'engagement, lorsque la loi 6, il y a quelques années, a été adoptée, qu'après, c'est d'un délai de 2 ans, 3 ans, toutes les IPS, pas seulement en soins de première ligne, aient une inspection professionnelle. Une inspection professionnelle, c'est s'assurer que les IPS pratiquent selon les règles de l'art. Et pourquoi celle-là plus que d'autres? C'est parce que les IPS, comparativement à d'autres types d'infirmières, ont des activités qu'on appelle à risque de préjudice. C'est-à-dire, ça risque de causer préjudice à la population si c'est mal fait. Alors, c'est comme ça qu'on va s'assurer là, de la bonne pratique des membres, puis tout en leur mettant à la disposition des guides de pratique, de la formation continue aussi qu'on offre, puis que d'autres, les associations d'IPS, par exemple, ou certains groupes médicaux auxquels les IPS participent. Alors, c'est comme ça qu'on sait collectivement, mais particulièrement nous comme ordre, on s'assure du maintien de la compétence de ces infirmières-là.
Est-ce que vous pensez que cette annonce contribuera à valoriser la profession d'infirmière-infirmière praticienne spécialisée, fera en sorte que plus de personnes vont vouloir aller chercher leur maîtrise, pousser leurs études de manière à devenir finalement une IPS?
Moi, je pense que oui. C'est bon pour la profession, ça la valorise, mais les premiers gagnants, je dirais, là-dedans, c'est la population, là, si on favorise l'accès. Mais oui, puis les gens disent que c'est une maîtrise, mais c'est une maîtrise, au Québec en tout cas, une maîtrise plus un diplôme d'études spécialisées. Alors, c'est la formation la plus costaud du Canada, là, la formation d'IPS. Mais oui, déjà avant l'annonce d'aujourd'hui, c'était quelque chose pour ceux qui envisagent de faire carrière dans la profession infirmière, les jeunes, là, quand ils vont dans les salons carrière, tout ça, ils disent ben, « comment je fais pour devenir IPS? » C'était déjà quelque chose de très intéressant. Mais c'est sûr qu'on peut parier que l'annonce d'aujourd'hui va en donner une couche de plus, si je peux dire ça comme ça, là, pour attirer des jeunes dans la profession, comme pour devenir IPS.
On a combien d'IPS au Québec et combien on prévoit en avoir au courant des prochaines années?
Ouais. Actuellement, là, au moment où je vous parle, il y en a 1500, toutes spécialités confondues, avec celles qui sont en formation au printemps prochain, là, à quelque part par là, on devrait en avoir 1800. Et la cible gouvernementale, c'était d'en avoir 2000 en 2024-2025. On s'y approche, mais même si on atteint ça, on va être nettement de ça du nombre d'IPS par 1000 ou 100 000 de population qu'ailleurs au Canada. En Ontario, par exemple, il y en a beaucoup plus. C'est un rôle qui a été déployé plus tôt qu'au Québec, mais je pense que ça va prendre un nouveau plan de déploiement parce que si on va avoir des impacts significatifs là, pour faire diminuer les listes d'attente des gens qui attendent d'avoir quelqu'un en première ligne, ça va en prendre davantage. Mais une fois que j'ai dit ça, l'annonce d'aujourd'hui, c'est un bon pas dans cette direction.
Est-ce que les infirmières spécialisées, praticiennes spécialisées, ont la capacité de monter jusqu'à 1500 patients de prise en charge, un peu comme les médecins de famille? Parce que j'entendais ce matin le ministre Dubé dire ça va être entre 200 et 1000 patients de prise en charge. 200, c'est vraiment pas beaucoup. Pourquoi on n'augmente pas le nombre de patients qui doit être pris en charge par ces IPS-là? Est-ce que parce qu'on pense qu'elles sont pas capables?
Non. Moi, je pense pas. Moi, je connais des IPS, parce que avant, j'étais à l'Université de Sherbrooke, les premières cohortes d'étudiants, j'ai rencontré des diplômés. Il y en a qui en ont 700-800 patients là sous le caseload actuellement, en collaboration avec un médecin, mais qui elles-mêmes suivent, qui n'a pas nécessairement de référence à un médecin. Fait que, mais du côté médical, il y a un incitatif à en avoir plus, parce que plus que tu en vois, ta rémunération est associée à ça. Hein, mais ça, il faut tenir compte de ça. Et puis, il faut regarder aussi le profil de la clientèle de plus en plus qui consulte le réseau de la santé. Souvent, c'est de plus en plus des personnes âgées avec plusieurs maladies chroniques. Alors, on peut pas avoir un débit d'une personne aux 5 minutes, là, comme des fois, on voyait ça, que tout le monde t'a convoqué à des délais très courts dans les cabinets de médecins. Alors, faut y aller en fonction du besoin des patients. Ça, c'est une chose. Puis, c'est sûr, faut être efficient aussi. Faut s'assurer qu'on envoie un certain nombre. Alors, faut falloir trouver qu'est-ce qui est raisonnable, un juste équilibre entre la performance, je peux dire ça, le nombre de patients qu'on voit, puis pour s'assurer qu'on réponde aux besoins des patients qui consultent les médecins et les IPS.
Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube.